Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 46e épisode, épisode numéro 45. Aujourd'hui, nous sommes le 26 mai 2021 et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Geoffroy Coupry. Bonjour Geoffroy, qui êtes-vous ?
Eh bien, bonjour, moi je suis Geoffroy, je travaille chez Clever Cloud en tant que développeur, je fais principalement du Rust et en ce moment du WebAssembly, des choses comme ça. Laurent, je te trouve un petit peu changé aujourd'hui.
Un petit peu, ouais. Je suis également accompagné de Alexandre Berthaud. Bonjour Alexandre, qui êtes-vous ?
Bonjour, je suis Alexandre Berthaud, je travaille chez Clever Cloud, et je suis dev, et je touche un peu à tout ce qui me tombe sous les mains.
Et enfin, aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'un invité de marque. J'ai nommé le merveilleux Clément Delafargue. Bonjour Clément, qui êtes-vous ?
Bonjour, je suis Clément Delafargue et je suis tech lead chez Fretlink, une boîte qui fait du camion, mais surtout du Haskell. Et avant ça, j'ai passé un peu de temps en tant que CTO chez Clever. Mais c'était il y a longtemps.
Eh bien, on est très content de te recevoir. Ouais, aujourd'hui, pour cet épisode qui se trouve être l'épisode des 1 an, l'épisode numéro 0, le premier épisode est sorti le 27 mai 2020. Donc demain, ça fera 1 an qu'on fait ce podcast. Donc on vous remercie tous, les auditeurs, les spectateurs, de nous suivre. Et un truc qu'on dit jamais, mais que j'ai toujours rêvé de dire, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, la cloche, tout ça si vous êtes sur YouTube. Et sinon, à partager le lien RSS et compagnie à vos amis. Alors, on commence tout de suite par un lien de notre invité, de Clément. Un lien qui nous parle de IRC, de Freenode, ouais. Etc. Alors,
qu'est-ce qui se passe le lien, c'est la lettre de démission des ops, des gros channels IRC. C'est un truc un peu shady. Apparemment, il y a un membre de la famille royale coréenne qui est fortuné en Bitcoin et qui est pote avec un des fondateurs de MTGOX. Truc déjà pas louche. Qui a acheté en fait la marque Freenode en sous-main auprès de l'ancienne directrice de la sécurité, sans que tous les volontaires de Freenode soient au courant, et en promettant que ça serait hands-off et que c'était juste un deal pour sponsoriser une conf, un truc, tu vois, très pas important sur les opérations.
Oui.
Et qui a commencé à mettre des liens sponsorisés vers ses boîtes, vers une boîte justement montée par le fondateur de MTGOX, et sans rien dire aux ops, qui sont tous des bénévoles. Et du coup, ça a fini par craquer parce qu'en gros, il a pris le contrôle sur Freenode. Ça s'est passé sur quelques mois. Au bout d'un moment,
Ouais. Tu peux juste préciser Freenode et MTGOX.
Oui, pardon. Freenode, c'est là où la plupart des salons de discussion sur les techno open source se trouvent. Donc les langages, les gros frameworks. Et MTGOX, c'était un échange pour acheter des bitcoins basé sur le code d'un site d'échange de cartes Magic qui a explosé en vol parce qu'ils se sont fait piquer plein de thunes et ils ont essayé de planquer ça. Enfin, bref, du bon bitcoin, quoi.
Ouais, un gros scandale à l'époque.
Et du coup, là, sur IRC, les ops ont monté un autre réseau parce que ça passait plus. Et le dernier développement, c'est que là, ce matin, tous les channels sur Freenode qui mentionnaient le nouveau réseau IRC, donc qui s'appelle Libera, ont été bannis. Parce que là, globalement, ça fait une semaine que tous les gros channels, les gros langages, moi, je l'ai vu dans la communauté Haskell, tout le monde était occupé à déménager vite, quoi. Et là, ils commencent à jarter du monde. Donc, c'est triste parce que Freenode, c'était vraiment une institution.
Ils virent les gens et ils prennent le contrôle des channels,
ouais.
En plus. Hein.
Ouais.
Donc, c'est assez triste, quoi.
Ce qui était intéressant là-dedans, c'est que la boîte qui a été rachetée, la boîte qui a été rachetée, c'était celle qui gérait la partie finance de la conf Freenode. Parce que sinon, le réseau, les serveurs, tout ça, c'était du volontaire, c'était fourni par des boîtes ici et là. C'est juste que avec l'accès à l'entreprise, ils ont eu accès au domaine.
Et
donc de là, ils ont commencé à prendre un peu tout le contrôle, à aller pousser les gens à lâcher les mots de passe, etc.
Et en fait, ce que disent les ops,
Après, on peut supposer de toute façon que beaucoup des utilisateurs vont passer sur Libera, du coup, et il n'y aura pas eu grand intérêt pour les repreneurs de Freenode, en fait.
Ça ressemble à un power move. Et en plus, ouais, ce que disent les apps, c'est que globalement, la personne qui a vendu ça n'avait même pas les droits pour le faire. Ils disent juste, bah, c'est quelqu'un qui est riche et qui peut se payer des meilleurs avocats que nous, donc nous, on n'a pas envie de jouer à ça, quoi. Voilà. J'ai vu aussi des migrations vers Matrix et vers d'autres outils qu'IRC, ce qui personnellement m'a fait plaisir parce que IRC je trouve que c'est relativement hostile pour beaucoup d'utilisateurs et passer sur des protocoles un peu plus modernes et un peu plus sympas, genre t'as pas besoin d'être connecté pour voir les messages, pour voir les messages qui ont été mis en ton absence, des trucs comme ça, c'est pas plus mal sur un terme d'utilisation, mais c'est quand même triste parce que Freenode, c'est quand même.
Sachant que le nouveau réseau Libera, lui, ils sont déjà en discussion pour mettre un bridge Matrix. Donc,
c'est assez accessible aussi comme ça. Et pour le coup, la Libera, ils ont fait une entité légale.
Et vous suivez quoi. Vous suivez quoi comme communauté sur vous suiviez quoi sur Freenode? Tu parlais d'Askel.
Moi, je foutais jamais les pieds sur IRC.
Rust et Videolan.
D'accord.
Okay. Pareil, rien du tout. J'ai vite fait toucher IRC il y a quelques années. Ouais. Ça fait longtemps
j'allais
que je suis
sur IRC quand j'avais des questions spécifiques. Mais
il y a Exerbo, je crois, qui était encore utilisé.
Clever avait un chain IRC il y a très longtemps. Ouais.
Clever a un chat IRC d'ailleurs, je sais même plus sur quel réseau. C'est peut-être sur Freenode d'ailleurs. En vrai, je ne sais plus.
Sur Gitnode.
Ah, ok, d'accord. Okay.
Et je vous confirme que je suis le dernier à être encore dessus parce que j'ai juste oublié de les virer de ma liste.
Ouais, je vois. On avait une cliente qui était dessus pendant un moment, qui avait tendance à contacter le support par IRC, du coup.
Pareil, je la suis sur Twitter et. Et globalement, mauvaise semaine, obligé de tout migrer. C'était assez désagréable.
Ouais, un peu galère, forcément.
Voilà.
Ok, alors attention, je me lance dans le game des transitions de podcast Clever. Et donc, en parlant de boîtes qui contrôlent quelque chose et qui autorisent ou n'autorisent pas des alternatives à prendre la suite, on va parler d'un lien de Alexandre Berthaud et de Google, d'Android et des stores.
Ouais, alors ce lien, c'est un article de XDA Developers qui explique un peu ce que Google va apporter comme changement dans Android, des changements qui font suite au procès Epic Apple et dans une moindre mesure Epic Google, et puis aussi des décisions, il me semble qu'au niveau de l'Europe, il y a eu des décisions qui ont été prises là-dessus, sur le côté autoriser des stores alternatifs sur les OS mobiles, pour limiter le côté monopole, quoi. Parce que sur Android, en fait, ça fait des années qu'il y a des stores alternatifs, vraiment très longtemps, des trucs comme F-Store, F-Droid.
F-Droid.
Voilà, on a aussi des trucs comme Humble Bundle, par exemple. Si vous ne connaissez pas Humble Bundle, c'est des gens qui vendent des jeux créés principalement par des indépendants, donc en prenant moins de marge, etc. Et du coup, sur Android, ils ont leur app qui permet d'installer facilement, en fait. Plutôt que de télécharger l'APK sur le site, bah, t'as un store qui permet de télécharger et installer facilement tes jeux. Mais jusque-là, c'était une action vraiment très manuelle, où il n'y a pas de mise à jour automatique, etc. C'est vraiment un côté un peu seconde zone à part, pas très bien intégré au système. Là, le changement, c'est que si ces stores-là utilisent une nouvelle API qui sera publiée prochainement, et qu'ils ciblent une API Android globale suffisamment récente, je crois que c'est à partir d'Android 10, ils vont pouvoir en fait demander une permission spécifique pour dire je veux la permission de mettre à jour les apps que j'ai installées. Et une fois que l'utilisateur aura accepté ça, c'est bon, le store sera capable de mettre à jour comme le Play Store, en fait, vraiment exactement pareil. Voilà. Donc ça permet vraiment juste de mettre à jour des apps déjà installées par ce même store. Ouais. Ça ne permet pas d'en installer sans autorisation de l'utilisateur.
Ouais, c'est une super nouvelle, ça.
Okay. Voilà, c'est quand même. Ça a du bon, cette histoire.
Carrément, carrément.
Et je suppose entre autres que ça aidera pour quelqu'un qui veut un peu dégoogliser son téléphone.
Ouais, c'est une approche.
Ça permet de vivre à côté de l'univers Google.
Une approche un peu intermédiaire, ouais.
C'est une bonne étape, quoi.
Bah, c'est vrai que ouais, pour ma part, le côté store, c'est peut-être le truc qui, moi, en tout cas, m'empêchait le plus d'envisager autre chose qu'Android googlisé, on va dire. Parce qu'il y a quand même une grosse dépendance à pouvoir facilement installer des trucs, etc., quoi.
Ouais, c'est quand même un point assez bloquant. Gérer ses mises à jour soi-même, on se croirait sur Windows, c'est un peu triste, quoi.
Ouais, bah,
c'est vrai.
On sent l'utilisateur de Arch Linux. Ok, donc toujours en parlant de légal, on va dire, on va parler de réglementation et de la CNIL. Encore une fois, c'est un lien de Alexandre Berthaud.
Ouais, donc c'est lié à ces fameux bandeaux de cookies auxquels on a le droit depuis un moment maintenant. Je sais pas depuis combien de temps ça a commencé en fait. C'est bien plus d'un an maintenant.
Bah, les bandeaux de cookies, on en a eu bien avant, hein. Tout ce qui est RGPD.
Ouais, il y en a
eu
avant. Bah, disons que les
après,
nouveaux,
on
peut refuser en fait.
Ouais, voilà.
Enfin, on peut refuser. Justement, c'est là tout le sujet, c'est que, bah, comme tout le monde, vous avez pu remarquer que suivant les sites, c'est plus ou moins facile à refuser. Généralement, c'est plutôt difficile à refuser quand même. Genre, le bouton accepter est bien mis en avant, et puis pour le refuser, il faut passer par 36 000 pages et refuser un à un, etc. C'est vraiment pas terrible. Et bah, c'est tellement pas terrible en fait que ça suit pas la loi.
Ouais.
Et du coup, la CNIL a réagi par rapport à ça. Et donc, ils ont mis en demeure, ils disent, une vingtaine d'organismes qui ne suivaient pas les règles. Par contre, on ne sait pas vraiment quels organismes sont concernés. Tout ce qu'on sait, c'est, je cite, « Les organismes visés par ces mises en demeure sont principalement d'importantes sociétés de l'économie numérique. »
Ouais, c'est assez vague.
Voilà,
et...
c'est assez vague.
Ouais.
Et donc, elles ont un mois pour réagir. Je ne sais pas si elles devront faire un communiqué pour dire « Hey, on a fait ça, c'était pas cool. » Donc, je ne sais même pas si on saura à un moment la liste. Peut-être qu'au bout d'un mois, ils vont publier qui a été concerné. Mais voilà, on en saura plus.
Après, ça fait...
Ouais, alors, ça met...
Ça fait quand même quelques semaines, là, maintenant, que les grosses plateformes de consentement ont bougé et ont mis un lien tout refusé accessible directement. Et ça, c'est plutôt cool.
Bon, ouais,
après,
il
y a des crevards qui ont mis refusé et payé un abonnement, qu'on ne nommera pas. Mais là, je trouve qu'il y a du mieux là depuis.
Ouais.
On avait parlé dans un
depuis
podcast
quelques semaines, enfin même un peu plus. Il y a un énorme mieux là-dessus, quoi. Ils ont dû avoir peur de la CNIL.
Sur ceux qui disent tu acceptes les cookies ou tu paies, c'est que il y a eu un truc, c'est que la CNIL s'était fait rebooter par le Conseil d'État là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques semaines, c'est arrivé. Après. Il y a ça là qui est dit par la CNIL qui dit « Regardez, on est venu râler pour les cookies. » Ce matin même, tu avais le compte Twitter de la Quadrature du Net, qui est une asso de protection des droits privés. Enfin, je vais l'écrire autrement, mais voilà.
Ouais.
Qui fait un thread rageur sur Twitter pour dire bah, « Voilà, ça fait 2 ans que le RGPD est là. » Enfin, qu'on essaie de faire bouger les choses niveau RGPD auprès de la CNIL pour qu'on s'attaque à certains gros acteurs. Et en fait, que la CNIL manifestement fait traîner sans raison particulière, que les autres acteurs équivalents dans les autres pays, par exemple l'Irlande, font traîner aussi, et que ça commence vraiment à les saouler. C'est-à-dire que on a l'arsenal juridique pour aller taper sur les gros, mais on va pas forcément énormément l'utiliser.
Et
après, est-ce que la CNIL et tous les organismes du genre ont suffisamment de moyens pour gérer tout ça? Bah, je suis pas certain non plus, quoi.
Ce que dit la Quadrature, c'est qu'il y a assez de moyens pour ces affaires-là. Après, bon, peut-être la CNIL va être d'accord ou pas, mais je veux dire, à quoi ça sert d'aller monter des lois comme ça si c'est pour pas mettre les moyens derrière de les appliquer?
Ouais.
Je veux dire, ah oui, c'est sûr.
C'est bon, on a réglé le problème, on a fait une loi. Oui.
Ouais. Ouais.
Mettre une menace qu'on peut pas exécuter, c'est un petit peu inutile, quand même.
Bon, ok, vous avez râlé, on a fait une loi, on a fait une commission.
Il y a Doctolib qui a eu un audit RGPD qui a communiqué dessus. C'était plutôt intéressant, j'ai pas mis le lien, mais je sais pas si vous en avez déjà parlé. Mais c'était assez intéressant. Ils sont sortis avec Il y avait quelques petites violations qu'ils ont pu corriger, mais ça s'était plutôt bien passé. Je pense que ouais, Doctolib était rapidement dans le collimateur. Ouais.
Après, faut noter.
Ouais.
faut noter que la CNIL, on ne dit pas que la CNIL fait rien. Il y a vraiment un paquet d'affaires, un paquet de choses sur lesquelles travaille. Mais probablement aller s'attaquer aux Google, Apple et Facebook et autres, c'est un taf qui est important, sur lequel il faut mettre des moyens, même s'il y a plein d'autres petites boîtes qui y aller chercher, ceux-là, c'est quand même ceux
qui sont. Il faut du soutien politique aussi derrière.
Et Geoffroy, je ne sais pas si on a lu le même thread, moi j'en ai lu un autre où ils évoquaient le fait que, par exemple, en Espagne, ils avaient beaucoup audité et ciblé des petites boîtes. Et plein de petites boîtes. C'était dans un autre thread Twitter, il faudrait que je le retrouve. Et que c'était une approche différente de ce qu'avaient fait d'autres CNIL en Europe. Je vais essayer de retrouver le lien aussi.
Bah, il faut les deux, parce que, enfin, on va être très clair, par exemple, les boîtes qui essayaient de se refiler en sous-main des listes de clients, des choses comme ça, alors que le RGPD venait d'arriver, on les a vues, hein, et fallait leur tomber dessus, ceux-là. Quand je dis des listes de clients, c'est tout un tas d'infos perso de tiens, ma boîte a cramé, tous les gens qui ont mis leurs infos perso, adresse, téléphone, etc., bah, en fait, je vais revendre ça en partant.
C'était la mode à une époque.
Et ben oui, tout le monde fait ça, mais il y a un moment, il faut s'arrêter. Quoi. Ouais. On en voit encore. Hein.
C'est triste.
Ok. sans transition. Nous allons passer à un lien de Geoffroy Coupry qui va nous raconter la suite et la fin de cette histoire de gens qui contribuent au kernel et qui peut-être avaient plus le droit ou sont plus les bienvenus.
Oui, ben c'était des chercheurs de l'Université du Minnesota qui pour un papier soumettaient des patchs qui ajoutaient des failles au kernel. Et ça a fini par se voir. Ils ont essayé de se protéger un peu mollement en disant non, mais c'est un outil d'analyse qui teste les trucs, qui génère les patchs. Donc voilà, des fois il y en a qui sont pas bons. Puis en fait c'est que ils venaient de sortir un papier pour dire regardez les projets open source, ils surveillent pas vraiment. On peut insérer ce qu'on veut comme code dedans. Et donc du coup, bah la réaction, ça a été il y aura plus de patch venant de mail de votre université, donc vous êtes banni. Puis on va revoir tous vos patchs pour savoir lesquels on va virer ou pas. Et donc sur 150 patchs, ils en ont viré 37. Donc voilà, ils ont voulu jouer, ils ont perdu.
Mais regardez un peu la liste des patchs, c'est quels patchs qui ont été virés. C'est des trucs qui apportaient des fonctionnalités au passage ou c'était vraiment des petits changements?
Non, c'est du bug fix. Je n'ai pas regardé la liste complète, mais c'est principalement des petits bug fix à droite à gauche. Mais si tu ajoutes une erreur, forcément. Après, effectivement, bah, eux, ils se sont fait choper, ils ont fait le truc publiquement, voilà. Mais techniquement, ce que dit Brian là, qui tweetait là-dessus, c'est qu'il faudrait appliquer ça sur l'ensemble des patchs. C'est pas parce qu'il y a un acteur pour qui ça s'est vu qu'il faisait de la merde qu'il n'y en a pas d'autres.
Ouais. C'est la face visible de l'iceberg. Quoi.
Après, compliqué ça. De faire une review aussi complète de tous les patchs derrière sans impacter le reste. Quoi.
Ouais.
Ouais, tu finis par largement limiter la progression du bazar quand même. Si tu fais confiance à personne, au bout d'un moment, enfin à ce point-là, quoi. C'est compliqué.
Ok. Donc, en parlant de faire le ménage et de virer des trucs et refaire des trucs tout neufs, Clément va nous parler de la Fondation Haskell et de son nouveau site.
Ouais. Bah, la Fondation Haskell, elle a été créée en fin 2020. Et l'idée, c'est d'avoir des gens dédiés à rendre Haskell plus sympa et d'encourager les gens à en faire. Parce qu'historiquement, Haskell, c'est d'une part des universitaires qui écrivent des papiers et qui ont besoin d'un langage pour écrire leurs exemples. Il y a beaucoup d'utilisations pour écrire des compilateurs, d'autres qui font des crypto-monnaies, des choses comme ça. C'est utilisé dans la finance aussi. Il y a des gens qui envoient des camions avec du Haskell aussi, coucou. Mais c'est une communauté assez hétérogène.
J'allais dire, vous en faites un prod.
Quasiment tous les nouveaux trucs sont Haskell. Et du coup, c'est une communauté assez hétérogène avec des gens qui faisaient des trucs dans leur coin. Et il y avait des choses qui avaient un peu pris la poussière. Et là, c'est l'occasion d'avoir une action un peu concertée. Donc là, typiquement, un des gros axes d'action, ça va être améliorer Haskell sous Windows, parce que c'est assez compliqué, rendre Haskell plus facile à installer. Donc il y a GHC Up, qui est un peu l'équivalent de Rust Up, qui est un outil qui sert à installer la toolchain, qui a été créé. Donc là, le but, c'est de l'améliorer sous Windows. Il y a un gros chantier, la bibliothèque principale pour faire des chaînes de caractères en Haskell, c'était encodé en UTF-16. C'était un choix un peu compliqué à porter maintenant. Donc là, il y a un chantier pour faire passer sur du UTF-8. Donc là, il y a la légitimité pour faire bouger pas mal de choses. Bon, après, faut qu'il y ait le travail et le temps qui soient mis derrière, mais au moins, il y a des gens qui sont prêts à apporter une démarche un peu unifiée pour améliorer les choses et pas juste des gens qui améliorent des petits trucs dans leur coin de manière un peu désordonnée, quoi. C'est super actif. Pareil, gros travail sur la doc aussi. Enfin, tous les trucs un peu vus comme chiant, là, il y a un effort concerté dessus. Donc, c'est vachement encourageant. Voilà, il y a un Discord et un Slack où les gens discutent pas mal. Et c'est plutôt cool de voir que ça avance et qu'ils ont pas peur d'aller toucher à des gros trucs, quoi. Donc, voilà. Contributeur welcome.
Ouais, moi j'avais jamais vu l'ancien site, mais c'est vrai que le nouveau est très élégant. C'est pas bourré d'animations fancy dans tous les sens, ni de trucs trop trendy. En même temps, c'est plutôt moderne.
Là, le but, c'est vraiment d'attirer un peu des nouvelles personnes.
Je parle du site, hein. À ce que j'y connais rien, j'ai pas d'avis.
Le but, c'est vraiment d'attirer des nouvelles personnes et
le site.
Et de rendre le truc un peu moins intimidant, parce qu'il y a du boulot à faire sur la doc. Et...
Non, mais vas-y.
Vas-y.
Ouais.
Je vais dire, le site Haskell.org avait été refait aussi, pas si longtemps que ça, finalement. Ouais. C'était fait par la fondation, ça aussi.
Non, le site Haskell.org, en fait.
C'est quelqu'un d'autre qui gère ça.
Justement, quand je parle de légitimité, c'est pas pour rien. C'est qu'avant, en fait, il y avait un petit shift entre les gens qui géraient la bibliothèque de paquets global de Haskell qui s'appelle Akage. Des gens qui ont fait Stack, qui est un outil un peu alternatif, qui simplifie plein de trucs et qui est l'outil que nous on utilise au boulot, et qui était plus orienté vers Haskell dans l'industrie. Et le site Haskell, en fait, il y avait deux versions concurrentes qui avaient été faites parce qu'il y avait des divergences de points de vue sur les choses à mettre en avant. Et en particulier, comment installer Haskell, parce que les gens un peu historiques voulaient mettre en avant les outils historiques qui ont certains problèmes, et les gens qui ont fait l'outil Stack, ils voulaient mettre Stack en avant, parce que c'est vrai que dans la plupart des cas, ça juste marche, mais du coup, c'était un peu compliqué. Là, la fondation, justement, elle a été annoncée par Simon Peyton-Jones, qui est un des fondateurs de Haskell. Haskell est un langage créé par un comité, rare et important, mais du coup il y a une vraie légitimité derrière et tout le monde est ok pour que ça bouge, quoi. Donc ça réduit le gros problème qu'il y avait justement d'initiatives un peu personnelles avec des petites luttes de pouvoir qui étaient pas très intéressantes. Là au moins tout le monde est censé aller dans le même sens et jusqu'à présent ça marche plutôt bien. Donc, voilà. Ouais.
Ok, c'est cool.
Cool. J'avais une transition des deux secondes, j'ai oublié. Tant pis. Sans transition, nous allons passer. Oui, j'allais juste dire, toujours dans le domaine des nouveautés et des annonces, un lien que j'ai proposé moi-même, vu que c'est un lien front-end, on a Parcel, le bundler, qui annonce une bêta 3 de sa version 2, donc Parcel 2 en bêta 3. On ne va pas détailler ce qu'il y a dans cette bêta, vous pourrez aller voir le lien, il y a pas mal de nouveautés, machin. On note qu'il pense faire une RC d'ici un mois, moi je trouvais ça un peu tôt, vu le nombre de choses que j'aimerais avoir et qui ne sont pas dispo, mais c'est comme d'hab, hein, on a chacun des envies et c'est pas forcément les priorités de la majorité des utilisateurs. Par contre, on va soulever un truc qu'on a déjà relevé plusieurs fois dans le podcast, c'est que dans cette annonce, Parcell explique qu'ils ont intégré SWC dans leur codebase et qu'ils ont codé des choses en Rust avec. Donc SWC, c'est un, on va dire, pour faire simple, un équivalent à Babel. Donc c'est un compilateur, transpilateur TypeScript, JavaScript qui est codé en Rust. On vous en avait parlé un petit peu il y a longtemps, je pense, quand on avait évoqué tous ces outils pour l'écosystème JavaScript, TypeScript qui sont pas codés en JavaScript, TypeScript. Et en général, ils sont codés en Rust et en Go. On a parlé plusieurs fois récemment de ESBuild, qui est codé en Go par le CTO de Figma, et qui a été choisi dans plusieurs outils, notamment le Vite, Snowpack, etc. Et donc là, c'est assez amusant, c'est qu'après beaucoup de projets qui ont choisi ESBuild, SWC, on en avait entendu parler, mais là, on a quand même Parcell, un gros projet qui se tourne vers ça. Et donc, bah, dans leur bêta, dans l'annonce, ils expliquent un petit peu pourquoi, comment, avec les bons vieux graphiques qui vont bien. Et je suis retourné voir le site de SWC, et c'est vrai qu'en termes de performance, déjà par rapport à ESBuild, il y a plusieurs choses sur lesquelles ils sont a priori plus performants, mais par rapport à Babel, c'est juste... tu peux pas tester quoi, c'est beaucoup beaucoup plus rapide. Ça me rappelle des débats il y a quelques semaines où j'avais demandé l'avis de Geoffroy ou sur Twitter oui mais est-ce que c'est plus rapide parce que c'est en Rust, est-ce que c'est plus rapide parce que c'est codé d'une certaine manière, parce que forcément quand tu fais Babel et que tu as un système de plugin, tu es obligé de faire plein de choses au niveau de ton AST, de ta compilation, alors que quand tu as un outil qui est où tu as moins besoin d'intégration avec l'extérieur, tu peux faire plein de raccourcis et gagner du temps. Enfin, voilà. Et forcément, personne n'était d'accord. Et c'est pas que personne n'a raison, mais je pense que là, vous saurez mieux expliquer que moi, vu que je maîtrise moins ces langages-là. Je pense que le choix du langage Rust ou Go va aussi influencer beaucoup sur les perfs, mais la manière dont tu codes aussi. Et donc, si tu as les deux, bah voilà quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ?
Mon avis sur la perf Rust, à part réécrivez tout en Rust parce que c'est trop bien tout ça. en fait, ce que Rust apporte niveau perf, c'est que de base, la perf va être bonne. En fait, parce que même sans te fatiguer, même sans chercher à optimiser, le fait que tu puisses te passer des références à droite à gauche, ça va te chanter un paquet d'allocations. Mmh. Le fait que ce soit directement un langage compilé, ça va être déjà assez optimisé. Il y a plein de petits trucs comme ça qui font que, sans même te fatiguer, tu as déjà un soft qui va être performant. Et après, si tu veux optimiser, souvent les trucs sur lesquels tu vas travailler, c'est justement les allocs, les choses comme ça, parce que c'est ce que tu auras sur ton mot de passe. Et dans les langages AGC, bah, tu finis par écrire du code qui essaie d'éviter la garbage collection, et ça se fait beaucoup en Java, en Go maintenant, mmh. Et on obtient des très très bonnes performances, parce qu'une fois que le code a été compilé par le JIT, ça va être très rapide. Mais la différence, c'est qu'en Rust, tu vas pas beaucoup t'embêter à faire ce genre d'optimisation, parce que déjà, d'une, t'as pas de garbage collection, donc c'est très très prédictif dans le fonctionnement. Mmh. Tu peux t'arranger, par exemple, pour que ta Outloop, l'endroit où tu fais la plupart de tes calculs, il n'y a pas d'allocation, que tout soit fait juste avant, et que tu ne travailles que sur des références. Et ça, en fait, tu vas pouvoir faire des choses comme ça, des manipulations qui étaient faisables en C, mais pour lesquelles tu prenais beaucoup, beaucoup de risques de bugs, et là, tu les as pas. Ouais. Donc en fait, c'est pas tant que de fait, Rust va être beaucoup plus rapide que tout le monde, c'est que tu te fais beaucoup moins chier que dans d'autres langages à optimiser, quoi. Ça rend le truc beaucoup plus intéressant, beaucoup plus ludique, parce que tu as moins de risques. Donc, je pense que c'est ça l'intérêt principal.
Ok. Clément, tu as des exemples de trucs qui ont été codés en quelque chose et qui ont été ensuite codés en Haskell et ça a été le paradis
Le paradis. Non, en termes de perf, c'est assez simple, enfin entre guillemets. C'est pas très très compliqué.
Ou de sécu,
c'est pas très compliqué de faire du Haskell performant. En gros, tu fais de la récursion simple, mais et Haskell va pas te se battre contre toi. Il y a des trucs de très performants Haskell, et d'ailleurs Geoffroy l'a vu quand il faisait les benchmarks sur Nome, qui est sa bibliothèque de parsing. Les bibliothèques Haskell avaient parfois ou même régulièrement des meilleurs perfs sur certains points. C'est peut-être moins vrai maintenant, mais c'est pas compliqué, c'est juste que c'est pas très drôle parce que Haskell nous file plein d'abstractions, et quand on fait du Haskell performant, on les utilise pas, on fait ses récursions à la main et tout. Le langage va pas se battre contre toi, mais c'est en général pas la raison pour laquelle on fait du Haskell. En termes de grosse réécriture, il y avait Darks qui avait été écrit en C++ et qui avait été reconnu en Haskell. C'est un gestionnaire de version concurrent de Git. On n'a pas des réécritures complètes, mais dans ma boîte, en fait, historiquement, il y avait un monolithe en Node, et on extrait des services en Haskell régulièrement. Et là, c'est vraiment sur le taux de défaut qu'on voit. On voit vraiment les améliorations, quoi. J'ai pas trop de souvenirs d'avoir eu à revert une mise en prod sur les services Haskell, alors qu'en Node, ça arrive régulièrement et on a assez rarement des bug fixes. Mais bon, après, ouais. Toute réécriture, de fait, bénéficie d'une meilleure compréhension du domaine. Donc, c'est très, très rare d'attribuer le succès ou l'échec d'un rewrite à la techno. En général, c'est une conjugaison de causes et c'est très, très dur d'extraire des données chiffrées là-dessus, quoi. Bon, ma métrique intéressante, c'est ce que les gens qui codent sont contents.
Peut-être
parce que même sans pardon. Ouais. Je veux dire, même sans changer de techno, en fait, une réécriture peut avoir un intérêt tout à fait bénéfique, quoi. Donc, c'est vrai
faut bien gérer ça.
Après, ça va poser des problèmes d'intégration, choses comme ça. Enfin, c'est.
Ouais.
Mais t'as effectivement ce que tu disais, c'est intéressant. C'est est-ce que le langage va se battre contre toi?
C'est ça qui.
Parce que. T'as des langages qui vont être pratiques pour certains aspects, et si tu veux faire de la perf, tout d'un coup, ça va être compliqué.
Ouais.
Et c'est, oui, moi, même si je voulais tout réécrire en Rust, il y a des trucs, des C-trails, des choses comme ça, je ne vais pas aller les refaire, ça n'a aucun intérêt, il y a déjà un outillage de dingue. Ouais. Mais il y a un compromis qui est pas mal maintenant, en fait, que je vois apparaître, c'est d'utiliser le WebAssembly.
Ouais.
Parce qu'en fait, maintenant, les runtime WebAssembly, tu peux les embarquer dans à peu près tous les langages. Dans Python, Ruby, Haskell, C, renfermant du Rust aussi, dans du JS, dans tout ce que tu veux. Et bah, tu peux prendre la partie que tu veux optimiser un petit peu, tu la mets dans du WebAssembly, qui va être compilé, s'exécuter comme du code natif, et tu peux l'avoir écrit en Rust, en C, en ce que tu veux. Et ça s'intègre dans le reste de ton app. Et finalement, je trouve que c'est un bon compromis, parce que l'interface entre les deux est bien définie.
Ça marche, mais
c'est plutôt bien isolé et ouais. Tu gagnes cette
perte. Ça s'applique surtout quand les données qui transitent entre la couche WASM et la couche dans ton langage sont pas trop trop structurées, parce que sinon tu passes ton temps à gérer de la déserialisation. Ouais. Et bah, typiquement pour la libbiscuit, j'avais fait une première version qui utilisait la FFI en C. Donc, en gros, mon code Haskell a appelé directement une bibliothèque C. Effectivement, j'ai rien eu à implémenter en logique. Par contre, c'était chiant parce qu'il fallait tout mapper à la main et on perdait beaucoup de temps. Et là, la nouvelle version, elle réimplémente tout en Haskell, bah parce que c'est des données très riches. Et en fait, pour la gestion d'erreurs, des trucs comme ça, c'est limite plus simple de recoder la logique que de m'embêter à faire faire le mapping, quoi. Donc ça va dépendre vraiment des cas. Il y a des cas, c'est utile d'avoir tout dans le même langage si tu veux interagir vraiment finement à l'intérieur de l'algo pour le reporting d'erreurs, par exemple. Dans d'autres cas où tu traites juste des chaînes d'octets, effectivement, passer sur WASM, ça peut être intéressant. J'ai pas du tout étudié l'overhead de l'interpréteur WASM en termes de perf, en termes de taille de binaire, des choses comme ça. Mais c'est clair que pour faire un support multilangage d'une techno, ça reste un outil super intéressant.
J'ajouterai dans les show notes un lien auquel je pense de Surma, donc, qui est dev, je ne sais jamais comment ils disent chez Google, développeur advocate ou DevRel. Enfin, il est ça chez Google, dans tout ce qui est Chrome, etc. Et il a fait tout un article d'analyse sur WebAssembly avec Assembly Script versus d'autres trucs. Et il réexplique un peu... Enfin, il fait des détails de benchmark et de perf. Ça vaut ce que ça vaut, ce que c'est fait sur un exemple, hein, bien entendu. Et il y a plein de warnings à la fin sur n'en tirez pas trop de conclusions, mais ça a le mérite au moins d'éveiller sur... comment ça marche et à quel point faut pas non plus croire que c'est un silver bullet et en même temps de s'intéresser à Wasm de manière générale. Quoi.
En tant que
c'est clair, c'est pas une, la solution miracle et ce que disait Clément, toute la partie, l'interface entre ton WebAssembly ou même ta fonction, ta lib en C si tu fais du FFI des familles, toute l'interface entre ça et ton langage, c'est là où tu auras la tous tes soucis et tous tes problèmes de perf. Et c'est pour ça que bah, c'est bien adapté à des tâches bien définies. Par exemple, tu as une image, tu veux appliquer des fils dessus, oui, ou la redimensionner, exactement, ou tu as de la donnée à décompresser.
Exactement.
Bah, passer par une lib externe ou du WebAssembly.
À la limite, parfait, en fait, en remplacement d'appeler des bibliothèques C, dans tous les cas, tu te payes l'interface qui est galère. Mais si c'est en termes de distribution de software que c'est... Enfin, moi, c'est l'avantage que je vois. C'est que si tu ships le binaire, le Wasm directement dans ton binaire, tu t'embêtes pas à demander aux gens qui lancent ton programme d'avoir la bibliothèque installée avec ton OS dans telle version. Et voilà. C'est pareil, encore une fois, pour revenir à Biscuit, c'était un autre problème. Biscuit étant pas packagé dans des distros, le déploiement d'un truc à scale qui nécessite Biscuit, c'était insupportable parce que je pouvais pas passer par l'infra à scale pour distribuer la bibliothèque C, quoi.
Ouais.
Donc là-dessus, pour le coup, je vois un énorme avantage à Wasm pour la portabilité des dépendances entre guillemets système, quoi. Tout le monde n'utilisant pas Nix encore. On est bien forcé d'avoir ce genre de choses.
Petite shout out to NixOS, du coup, si j'ai bien compris.
Bah, Nix permet.
On va faire une petite parenthèse.
Je disais que Nix permet en fait de déclarer des dépendances système.
On va faire une...
Donc ça permet d'éviter ce problème de distribution, mais c'est très limité dans le scope, quoi.
Ouais. On va faire une petite parenthèse avant de reparler de Wasm, avec un lien de Geoffroy Coupry qui va nous parler de RSA, de vieux trucs qui sont devenus récents, ou en tout cas dont on apprend enfin ce qui s'est passé, si j'ai bien compris.
C'est ça. En fait, c'est qu'en 2011, RSA, donc l'entreprise qui fait les tokens SecureID, s'est fait pirater. Et ça a été un truc énorme à l'époque, mais on n'avait pas forcément eu énormément d'infos sur ce qui s'était passé vraiment dans la boîte. Et là, ben, ça fait 10 ans. Et donc, les accords de confidentialité viennent de tomber. Donc, les gens qui ont participé à ça, qui bossaient chez RSA à l'époque, sont en train de lâcher les infos. Donc, pour le contexte, les tokens SecureID, c'est des petits gadgets qu'on portait avec soi, qui affichent régulièrement un code. Et en fait, quand on rentre son login, son mot de passe, on devait rentrer le code qui était lié à ça. Et RSA filait de l'hardware à plein de boîtes pour sécuriser leurs accès. C'était pour les banques, c'était pour des grosses entreprises avec plusieurs milliers d'employés, etc. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que le système qui définit les données racines de tous les codes, c'est-à-dire à partir de ces données-là et globalement de l'ID de la personne et de la date, on arrive à savoir quel est le code qui est utilisé actuellement. Et ben, ces données-là, ils se les sont fait voler. Et là, on a une présentation de tout le process. C'est comparé à des piratages qu'il y a pu y avoir où les gens rentrent dans le système et puis il leur faut genre 9 mois pour mettre les mains partout et finir par se faire prendre. Là, c'est en une semaine. En une semaine, ils se sont fait repérer et ont commencé à se faire suivre. Mais tout a commencé par un tout bête fichier Excel qui a été envoyé par mail, qui a été ouvert, il y avait un exploit flash dedans.
Et un puis exploit de là, ils ont flash. Commencé à oui, ça date.
Oui, 2011.
Ouais.
Et de là, ils ont commencé à accéder à tout le système et à chercher partout. Et donc, le serveur qui stockait toutes les données racines, qui était le truc qui devait être le plus sécurisé possible, qui était même censé être séparé complètement du réseau principal, bah, en fait, de temps en temps, il y a quelqu'un qui devait s'y connecter pour faire un disque avec des données de base à installer dans les racks RSA qu'on mettait dans les grosses boîtes. Parce que tu pouvais avoir ta partie on-premise de RSA. Et bah, en fait, ils avaient fini par accéder à ça et faire tout un tas de requêtes pour dump toutes les données petit à petit. Et il aura fallu des mois pour rattraper ça. C'était un truc incroyable, je me rappelle, parce que à l'époque, 2011, je sortais juste de chez Amadeus, ils avaient tous les tokens comme ça, et j'étais en train de réfléchir à ce que ça pouvait coûter. Parce qu'un token, c'était genre $25.
Ah oui.
Est-ce que rien qu'en temps de remplacer les tokens de tout le monde, parce que c'est, si t'as les clés confutées, il faut tout remplacer, tout changer, rien qu'en temps d'aller changer ça chez tout le monde, dans toutes les boîtes, rien qu'en termes logistiques, bazar que ça pouvait être. En plus, moi à l'époque, je bossais dans une boîte d'autant de fortes, donc bon, on va dire qu'on s'est marré, mais ça tombait plutôt bien pour nous.
Ouais.
Et voilà. Et en fait, ce qui s'est passé quelques mois plus tard, c'est que Lockheed Martin, qui est une boîte, un contractant de l'armée américaine, qui faisait notamment, qui bossait notamment sur les chasseurs, les avions, et je crois notamment le F-35.
Ouais.
Et ben, ils se sont fait pirater et, si je me souviens bien, ils se sont fait tirer des plans, pas mal de plans d'avions.
Ouais, c'est autre chose, quoi.
Ouais, et dans les reports qu'ils ont fait après, ils ont pointé du doigt RSA et dit, bah ouais, bah en fait, on s'est fait pirater parce que bah, les attaquants, ils pouvaient envoyer des codes RSA, ils les avaient tous, quoi.
Sympa.
On est sur un level de A, Denis Brognard, qui est assez élevé, là, quand même.
Mais c'était incroyable, cette histoire, quoi.
Ouais.
Ça, c'est dingue.
Tout le monde était dépendant d'eux. Et ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'ils font le lien avec d'autres attaques qu'il y a pu y avoir ces dernières années, dont la boîte ukrainienne de Conta, qui s'appelait... Ah, j'ai plus le nom. Mais qui s'était fait pirater par des Russes. Et ils avaient mis un malware qui s'était répandu mais partout dans le monde. Le truc, c'était une cochonnerie. Et en fait, ils avaient attaqué la boîte de Conta et ça s'est déployé chez tout le monde. C'est le monde de ce qu'on appelle les supply chain attacks, où plutôt que d'attaquer une boîte, bah, tu t'attaques à qui lui vend du soft.
Ouais.
Et oui, l'autre cas dont il parle, c'est celui de SolarWinds, qui est plus récent,
oui, plus récent,
c'est une boîte qui fait un soft de gestion de serveurs. Et c'était installé, mais partout. Parce que si tu dois gérer une archi avec des milliers de serveurs dans un gros réseau d'entreprises, bah, il y a un moment, tu as besoin d'outils de gestion. Et donc, tu installes un truc comme ça. Et
c'était une backdoor ou il s'était fait trouer? Je ne sais plus du tout.
Oui, enfin, ils avaient en upload un truc pour accéder à distance. Et voilà. Et puis de là, ils sont rentrés dans un certain nombre de réseaux. Et qu'est-ce que tu peux faire face à ça, quoi? Il y a un moment, tu dois bien faire confiance à tes fournisseurs.
Ouais.
Ah, tu peux essayer de pas prendre ce qui est trop populaire, parce que ça a peut-être plus de chances de se faire attaquer, mais c'est compliqué, ouais. Quoi.
Bah, le truc, c'est que t'imagines, tu veux, prenons le cas de RSA, tu veux des tokens d'autant de fortes à l'échelle de, j'ai une boîte de 15 000 personnes. Qui? Tu vas voir qui?
Ouais.
T'as pas 50 boîtes qui te font ça, quoi.
Puis tu vas pas voir Jean-Michel Startup, ils sont deux et ils se sont lancés il y a 2 ans. Quoi.
Ouais, ils vont pas réussir à fournir ça.
Bah, rien qu'en capacité de production, quoi. Ce genre, c'est pas possible. Donc, mais c'est vraiment une histoire très, très, très intéressante. Hein, et il faut réfléchir un peu à ce qu'on laisse rentrer dans nos systèmes. Quoi.
Ouais.
Transition jumpée par rapport au sujet d'avant. Nous allons reparler de Wasm avec une annonce de StackBlitz qui publie un article qui s'appelle Introducing Web Containers. Donc, on nous a bassiné pendant des années avec cette imagerie de conteneurs, de Docker, de je déplace des conteneurs et à l'intérieur, il y a ce qu'il faut. Quand Docker est arrivé, vous vous souvenez, toutes les confs avec, on voyait des vraies photos du port d'Anvers ou du Havre, etc. Là. Et donc là, on a StackBlitz qui nous annonce un... Donc StackBlitz, je reprécise vite fait, c'est en gros un IDE en ligne. Enfin, pour le résumer énormément, c'est ça. Donc vous allez sur StackBlitz, vous créez un nouveau projet et vous avez une espèce de VS Code, puisque c'est le même code, je pense, qui est dans votre navigateur. Vous pouvez parcourir les fichiers, éditer des fichiers, créer des commits. Historiquement, les gens s'en servent. Et vous avez la preview aussi dans une espèce de faux navigateur. Les gens s'en servent beaucoup sur du front-end. Tu codes ton petit composant React, tu as ta preview, tu peux partager... C'est pas mal pratique aussi pour reproduire des bugs et partager un lien vers une repro, etc. Et en fait, là, StackBlitz nous annonce qu'ils ont fait un effort conjoint avec Google et, j'ai un doute, Vercel pour, attention, run, donc enfin lancer, faire tourner du Node.js dans votre navigateur. Et là, je sais pas vous, mais moi, quand j'ai lu l'article, j'avais Exhibit dans ma tête en mode
obligé.
Yo dog. On m'a dit que tu aimais bien JavaScript côté serveur. Du coup, j'ai mis du JavaScript côté serveur dans ton navigateur. Oh là là. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? C'est en gros, ils target une catégorie d'utilisateurs qu'on néglige beaucoup trop, qu'on dénigre aussi, qui ont des difficultés à affronter ce domaine du setup, un environnement de dev. C'est quand t'es débutant et que tu commences, c'est juste la catastrophe, quoi. Le monde du web JavaScript invente des outils tous les 3 secondes, donc c'est encore plus la jungle. Et donc là, la promesse, c'est tu vas sur StackBlitz, tu fais clic nouveau projet. Et tu peux faire npm install, node run ton fichier .js, tout marche. Donc il y a cette partie de setup instantané. Tu as la partie sécurité aussi. Je vous rappelle que quand vous faites un npm install, pour peu qu'il y ait des post-install script, le truc peut clairement aller faire fuiter n'importe quel fichier qu'il y a sur votre file system quelque part. Là, le truc est complètement isolé dans votre navigateur et donc en termes de sécu, ce qu'ils essaient de mettre en avant, c'est que c'est hyper bien isolé. Et en fait, ce qui manquait par rapport à ce qu'ils avaient avant au niveau lancer du JavaScript dans un browser, c'est qu'ils ont wasmisé un node, si j'ai bien compris, pour faire tourner des scripts Node.js dans votre navigateur. Et en plus, ce qu'ils rajoutent et qui est vraiment stylé, c'est une partie basée sur des service workers. Donc je rappelle, un service worker, c'est, on va dire, une sorte de proxy dans votre navigateur qui vous permet d'intercepter les requêtes HTTP qui sont faites. Et c'est essentiellement utile pour intercepter une requête et répondre depuis un cache ou répondre depuis un cache, aller vraiment demander la requête côté serveur et repopuler le cache. Enfin bref, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc là, pour vous dire, imaginez, vous avez un serveur genre Express, vous faites dans StackBlitz, qui est une web app que vous n'avez pas installée, vous faites node monserveur.js, ça lance votre serveur dans un truc wasm qui exécute Node ou une version de Node qu'ils ont, on ne sait pas trop. Et après, vous allez sur l'URL qui va bien. Donc, j'ai oublié le nom, mais c'est un truc genre blablabla.stackblitz.com. Et c'est votre serveur. Et donc, en fait, ça fait une requête. Elle part dans le service worker, elle est interceptée. Et là, il va discuter avec un worker wasm pour aller servir la requête HTTP depuis votre node qui est dans votre browser. ça va, j'ai perdu tout le monde.
C'est impressionnant.
En fait, on est plusieurs dans le Slack Clever et s'est dit, bon, l'utilité, en tout cas, je pense qu'on est quand même, moi je reste hyper attaché à mon terminal, mon IDE installé sur mon desktop, enfin mon laptop, etc. Mais la prouesse technique de réussir à faire ça est assez impressionnante. Hier, je l'ai testé. Alors forcément, je l'ai testé avec mon propre framework HTTP que j'ai codé et qu'il ne faut jamais utiliser en prod, n'est-ce pas? Alors, ça marche. Ça marche. Enfin, ils n'ont pas de support de ECMAScript module pour l'instant. Donc, j'ai dû rétro-compiler tous mes trucs ESM en CommonJS. C'est Chrome only, on va le redire 10 milliards de fois. Moi j'en peux plus de voir, oui ça marche dans plein de navigateurs et là toute la liste c'est que des trucs basés sur Chromium. Oui ça marche dans Edge, dans Opera, dans Brave, dans Vivaldi, t'es là, ouais, foutez notre gueule, ça marche dans Chrome et puis c'est tout. Et donc ils ont un support de Safari et Firefox qui va arriver, pareil le support de ESM va arriver. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Autre truc marrant, j'ai essayé d'installer les Clever Tools, qui sont un outil en ligne de commande pour gérer Clever, qui est fait en Node.js. Alors, on ne peut pas installer d'outils en global, mais j'ai essayé de l'installer pour ensuite le lancer depuis le nodemodule.bin, etc. Et il y a un truc qui ne marchait pas. J'avoue que je n'ai pas creusé pourquoi. Et les stack trace ne sont pas vos vrais fichiers, en tout cas pour l'instant. Ça pointe vers des trucs qui ont été buildés. Donc, moi, j'avoue que c'est oui, je précise aussi, ils ont un projet qui s'appelle Web Container Core, mais j'ai pas sur GitHub, j'ai pas encore bien compris ce qu'ils allaient faire là-dedans. Est-ce qu'ils sont en train de pousser plein de gens à créer des compatibilités plus diverses et variées pour cet environnement-là? Voilà. En tout cas, pour ma part, je trouve ça intriguant, impressionnant à suivre. Je sais pas ce que vous en pensez, vous.
C'est niveau technique, c'est...
Ouais, je veux dire, c'est effectivement, techniquement, c'est intéressant et tout. Par contre, un peu comme toi, Hubert, j'ai jamais trop vu l'intérêt. En tout cas, j'ai jamais eu l'envie d'utiliser un IDE web. Je sais pas s'il y a d'autres gens qui s'en sont servis.
Alors moi je vois l'intérêt tout de suite et vous avez vu CodeSpace?
Non.
Cette idée, c'est GitHub qui met cette fonctionnalité là dans ton repo tu cliques et puis tout d'un coup tu as un environnement de dev pour ce projet là. Alors quand on bosse constamment dans la même techno, qu'on a tout directement installé son node, son webpack, son machin, ou son cargo pour Rust, ou son Java, ah bah oui mais en fait t'as pas la bonne version de Java, ah attends le Maven il pointe où, ah attends le... C'est intenable en fait. C'est-à-dire, des fois, tu as des technos où maintenir un environnement de dev qui fonctionne, c'est déjà quasiment une partie de ton travail très très régulière. Mais si tu switches d'une techno à une autre régulièrement, et ben c'est compliqué. S'il y a un projet que tu as laissé un petit peu traîner, on parle des versions Java, tiens, t'as un projet qui est en Java 8 et puis là, t'en as un autre qui est en Java 11 et tu dois switch de l'un à l'autre. Mais en fait, ils utilisent pas les mêmes versions de tel ou tel outil, etc. C'est compliqué. Et en fait, là, t'as ton repo qui vient avec ton environnement de dev et quelqu'un qui dit qu'il y a un problème avec ton projet, qui doit fixer un truc, mais qui a pas forcément envie d'aller se setup tout un environnement de dev entier. Genre, j'en connais qui font des recherches de failles de sécu, qui trouvent la faille sécu et qui auraient la capacité à aller envoyer un patch. Mais juste, quand tu regardes, alors attends, comment ça se compile ce truc-là? Ouais,
c'est ça.
Je vais ouvrir une issue et puis voilà. C'est... Voilà. Et donc, pour ça, c'est génial. Et leur truc, lancer du node dans un service worker, je suis certain qu'il y aura des applications marrantes qui vont en sortir. De déporter des bouts de serveurs comme ça, juste côté front, des choses dans ce genre-là. Je pense qu'il va y avoir vraiment des choses rigolotes qui en sortiront.
Ouais.
T'allais dire, Alexandre, t'étais...
Non, moi, je n'avais rien de plus
effectivement, on se focalise souvent sur l'écriture du code, parce que quand on va écrire du code, on se tape l'environnement de développement. Et quand on lit du code, si on n'a pas le truc sur place, c'est rare qu'on s'embête à démarrer beaucoup de choses. Moi, la plupart du code que je lis depuis GitHub, en fait. Le fait d'avoir un IDE juste pour explorer du code en lecture seule, ça, ouais, c'est déjà ultra utile. Et d'autre part aussi, me rappelant avoir bossé avec vous, je pense qu'on est un peu biaisé au sens où on aime bien maîtriser nos environnements de développement. On aime bien avoir les outils utilisés nous-mêmes.
Clairement.
Pour avoir vu pas mal de projets dans des ESN, où là, il y a une équipe et l'environnement de dev, c'est fais un Docker Compose up, va prendre un café ou 15 parce que ça va prendre 20 minutes, parce qu'on va tout redémarrer, y compris le serveur, même si tu fais que du front. Et puis au passage, on va booter un trafic pour qu'il y ait du HTTPS en local. Ça, c'est une vision qui est assez différente des environnements de dev, qui est pas la mienne et je pense pas la vôtre, mais effectivement tout outil qui permet d'améliorer cette partie-là sans demander de gérer son environnement un peu soi-même, c'est une avancée. Pas pour nous forcément, mais je vois vraiment l'intérêt que ça peut avoir.
Il y a des petites limitations que j'ai commencé à voir hier. J'en ai évoqué une, c'est le... En tout cas, pour l'instant, parce que je pense que ça va s'améliorer. Les stack trace, tu as des trucs, c'est des URL imbitables. Hein, donc, tu te dis, mais attends, l'erreur, elle vient de quelle ligne ? Et c'est des trucs qui ont été compilés, donc tu ne sais pas trop. Ça, je pense, sera cool quand ils vont améliorer ça. Je n'ai pas pu aller farfouiller dans les nodes modules, dans l'explorateur de fichiers. Je n'ai peut-être pas trouvé. Alors que dans le terminal, je pouvais faire ls et je pouvais les exécuter potentiellement. Donc, je pouvais peut-être les Vim. Non, je pense pas qu'ils aient mis Vim, mais en tout cas, moi, j'avais besoin d'un peu plus la main pour comprendre ce qui se passait. Et je pense qu'ils vont améliorer ça. Après, tu as des limitations. J'ai vu beaucoup de gens en parler pour lancer des générateurs de sites statiques basés en JS directement dans le navigateur.
Ouais, c'est cool,
éviter d'installer je ne sais quoi, ça c'est pas mal. Par contre, tu vois là, en lançant mon propre framework Node.js, je voulais vérifier que le module de compression marchait bien. Je peux pas, en fait, parce que c'est servi via le service worker, et donc il y a tout un paquet de headers que t'as pas le droit auquel t'as pas le droit de toucher. Forcément, il y a plein de trucs qui vont être où le layer que tu vas avoir au-dessus va suffire dans 90% des cas, mais pour des edge cases, ça va pas être faisable. Ce qui m'intriguait, c'est est-ce que tu pourrais pas lancer un petit proxy, genre, bon, imaginons sur Clever, mais qui, toi, t'es connecté en WebSocket avec ce serveur. Et donc, quand quelqu'un attaque ton proxy, un peu comme un ngrok, ça va taper dans ton serveur qui est dans ton propre browser.
Ah ouais, au moins que tu aies un vrai passage HTTP sur un point et que tu aies accès à tes outils HTTP.
Et là, du coup, tu auras un vrai passage HTTP entre
les deux. Ouais. Oui, techniquement, je pense que c'est jouable, effectivement. Et après, sur le site, ils disent que c'est une feature de sécurité.
En tout cas, c'est...
De ne pas exposer de vrai HTTP parce que tu ne peux pas te faire scraper ni rien.
Oui.
Mais effectivement, avoir un vrai passage HTTP pour retomber sur des outils HTTP, ton curl et tout, c'est quand même bien pratique, quoi.
Ouais. Donc, ouais, un projet à suivre est assez... intriguant, on verra ce que ça donne. Oui, et aussi, je l'ai lancé dans Chrome, j'ai lancé le Task Manager. On était à entre 300 et 400 MB de RAM sur l'onglet et l'ensemble des workers que ça spawn.
Honnête.
Je m'attendais à plus, en vrai. Mais bon. Voilà. J'allais attendre que quelqu'un fasse une transition, mais non, c'est à moi de les faire. Donc, on passe tout de suite à un autre sujet d'une boîte qui est à l'origine de ESBuild, le compilateur JavaScript en Go, qui est Figma. Et donc, Figma, ils ont eu un bug et Geoffroy va nous en parler.
Oui, Ouais, donc en fait, ces Figma, ils ont eu un petit bug report qui disait que le raccourci Shift 2, ça marche bien si on utilise les chiffres au-dessus du clavier, donc au-dessus des lettres, mais si on utilise le 2 du pavé numérique, ça marche pas. Et ils ont cherché, et en fait, tout ça, ça vient de décisions prises sur les claviers IBM dans les années 70. Parce que entre ceux qui avaient le pavé numérique, ceux qui l'avaient pas, les raccourcis qu'ils avaient fait pour certains claviers qu'il fallait du coup garder pour les claviers des autres, etc. Ça a donné une série de décisions qui sont transmises petit à petit jusqu'aux machines Windows actuelles. Avec à côté le petit effet de bord que en fait les Mac eux sont partis directement avec un design différent et le bug du coup n'apparaissait que sur Windows et pas sur Mac. Et je trouve ça intéressant de voir ces petites décisions, ces petits problèmes d'ingénierie qui nous suivent encore et encore, et de toute façon on pourra jamais s'en débarrasser, c'est là, ça fait partie de la culture, c'est comme ça.
Et si j'ai bien vu le thread, Shift 2 sur un pavé numérique historiquement IBM, ça, c'est les flèches vers le bas, ça ?
Oui, je crois que c'est pour les flèches.
C'est ça, en fait, ça fait une croix sur le pavé numérique, il y a 2 vers le bas, 8 vers le haut, 4 vers la gauche, etc. Le thread est intéressant, c'est marrant, il y a plein de captures d'écran, si vous aimez le keyboard porn, c'est
ouais, stylé. Ils décrivent les types de ressorts sur les interrupteurs et tout, c'est très plaisant.
Je crois qu'on a des utilisateurs de claviers mécaniques dans l'assemblée là.
Non,
on en a.
bien. Toujours en parlant de matos, on va parler de transistors, et c'est encore un lien de Geoffroy Coupry.
Oui. Donc TSMC, qui est le fondeur, qui fait une partie énorme des processeurs mondiaux, je crois que ça doit être 40%, un truc comme ça, bah, ils ont annoncé qu'ils ont réussi à faire des transistors qui font une taille de 1 nanomètre. Faut savoir qu'actuellement, on est, je ne sais plus, à 5 ou 7 nanomètres pour les dernières 5 nanomètres pour les puces de dernière génération. IBM a sorti qu'ils ont des transistors en 2 nanomètres. Bah là, TSMC dit maintenant on fait du 1 nanomètre. Vas-y, on fait quoi pour aller plus petit ? Sachez que l'unité en dessous, c'est le picomètre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont changé de composants de matériel. C'est-à-dire qu'ils utilisaient encore des transistors au silicone, et là ils passent au bismuth, qui est un autre métal.
Ah ouais.
Voilà. Et du coup, qui permet de gérer un petit peu mieux la consommation électrique, etc. Donc, j'ai pas vu énormément le pourquoi ça marche mieux, etc. Parce que bon, il y a un papier et j'ai pas du tout les compétences pour comprendre ces choses-là. Mais c'est intéressant de voir qu'on peut toujours aller plus loin. Hein, là, les limites, on pensait que les limites étaient déjà atteintes sur la taille des transistors et du coup, bah, le nombre de transistors qu'on peut mettre sur une puce pour pouvoir faire énormément de calculs, bah, en fait, ça continue. Ah,
c'est pratique, le bismuth.
Ça ne s'arrête jamais.
Ça permet de faire des jeux de mots intéressants avec des tripoles bismuth et des anciens présidents de la République. C'est du passage pris.
C'est clair.
Désolé.
Du coup, il doit y avoir un paquet de gens qui cherchent furieusement qui produit du bismuth où dans le monde, parce que tout d'un coup, ça va être un sujet.
Ouais, tu m'étonnes. Ok. On va continuer sur le low level et après les CPU, les transistors, on va parler d'OS avec encore un lien de Geoffroy Coupry qui nous parlait de Fuchsia.
Ouais. Donc Fuchsia, c'est un système d'exploitation que Google développe.
Ça fait un paquet d'années maintenant.
Pardon ?
Ça fait un paquet d'années maintenant, je crois.
Ouais. Ça... Bon, je ne saurais plus le dire, mais ça fait doit faire peut-être 4-5 ans, un truc comme ça. Ça,
ouais,
ça
au non, départ, il n'y avait vraiment pas d'infos, il y avait juste le nom qui était sorti, on ne savait pas plus. Ouais. Quoi,
mais... ça avait fuité assez tôt parce que c'était fait en Rust, et du coup, les devs Rust se connaissaient tous à l'époque, et donc voilà, on savait qu'il y a quelque chose qui se préparait. Et donc là, ouais, ça arrive, c'est publié, et donc ça arrive dans les composants Nest parce que Google avait racheté Nest il y a quelques années. Et donc dans les trucs qu'ils n'avaient pas fini par annuler et retirer du marché, il y a le Nest Hub qui contient du coup maintenant du Fuchsia OS. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'avec la release, ils ont aussi sorti donc un site avec un petit peu plus d'infos sur comment ça fonctionne. Et j'ai mis un autre lien à, des gens il y a quelques semaines ont fait un deep dive dans Fuchsia pour expliquer le design. Ce qui est intéressant, c'est que ça reprend un peu toutes les idées qu'il y a pu y avoir pendant de nombreuses années sur comment tu peux concevoir un OS, ce qui vient de l'embarquer, les microkernels monolithiques, etc. Tu as plein de compromis qui ont été faits pour que le design soit plutôt propre au final. Donc c'est un projet intéressant à suivre, et maintenant ils sont un peu plus ouverts aux contributions. Quoi.
Ok. Je précise, je dis, ça fait plusieurs années qu'on en entend parler. Je sous-entends pas, bon, qu'est-ce qu'ils foutent, hein, créer un OS from scratch il y a un moment, ça prend du temps. Hein, je précise.
Oui, puis je crois que c'était pas forcément à destination de machines, enfin de d'avoir du Fuchsia sur votre laptop, quoi. Ouais. Probablement, à tous les coups, c'est un OS dont quelqu'un, il y a un moment, va se dire, je vais faire tourner mon laptop dessus, et puis voilà, et puis ça va devenir un gros projet, parce que ça arrive toujours, ce genre de truc.
Ouais.
Mais le but, c'est vraiment, ça a l'air d'être plus embarqué pour le début, quoi.
Ouais, j'allais demander, dans les communautés que tu évoquais, on en sait un peu plus sur... Enfin, je veux dire, il y a un moment, quelqu'un chez Google a dit, on va faire un OS, il y a quelqu'un qui a dit, tiens, voilà plein d'argent. Il y a un moment, il l'a convaincu avec quelque chose. Est-ce qu'il l'a convaincu en disant ça va cibler de l'embarqué qu'on fait, donc là des produits Nest ou autres, ou est-ce qu'il l'a dit, ils ont avancé d'autres usages type des Chromebooks, des laptops, des smartphones.
Des premières démos, c'était sur des téléphones Android, c'était des choses comme ça. Donc, il devait y avoir une stratégie vraiment orientée mobile, embarquée au début. Je pense que c'est ça. Okay. J'ai pas particulièrement d'infos là-dessus, quoi.
Okay.
A priori, le but, c'est quand même de remplacer tous les usages d'Android aujourd'hui à terme. En tout cas, sur téléphone, ce serait le but, quoi. Là, donc ça a été déployé sur, en tout cas ça commence à être déployé sur la première génération de Nest Hub, qui est en gros comme un Home Mini, sauf qu'il y a un écran, et c'est censé, si j'ai bien compris, vraiment reproduire la UI telle qu'elle.
Ouais.
Et genre le visuel de l'ensemble, en fait, normalement pour l'utilisateur, c'est censé rien changer. Éventuellement casser des choses, justement, parce que le but c'est sûrement de voir s'il y a des trucs qui cassent, mais c'est censé reproduire. Et entre autres parce que Google, je connais pas bien le sujet, mais Google a sorti une nouvelle on va dire façon de faire les UI d'app Android qui s'appelle Flutter, qui il me semble permet de publier dans des apps Android et dans du web, ouais, aussi. Et du coup Fuchsia utilise Flutter aussi, donc ça devait faire partie un peu de la stratégie aussi, en fait, d'avoir un truc compatible entre les deux et de pouvoir transitionner de l'un à l'autre.
Ouais.
Je suppose.
D'essuyer les plâtres sur leur propre truc,
ouais,
où il n'y a pas forcément. Enfin, tu peux pas développer des apps pour un truc Nest, si
je sais. Non, c'est que, ouais, c'est que interne. Je crois.
Ok. Ok. Autre chose. Non. Mais on reste dans le domaine de chez Google. Avec un lien qui est sorti pendant le Google I.O., qui est un code lab sorti par Google pour guider les gens au framework, à la librairie Lit, mais orienté pour les devs React. Et donc, on ne va pas s'éterniser sur le sujet, mais le guide est super bien fait. Donc, si vous êtes dev React et que vous êtes intrigué par Lit, dont on a parlé plusieurs fois, qu'on utilise chez Clever pour faire nos composants, je vous conseille vivement de le regarder. Et en fait, j'ai surtout mis ce lien parce que je m'intéresse à comment les gens font des choix techniques, particulièrement dans le monde du front-end. Qu'est-ce qui fait que demain, tu choisis React, Vue, Angular, Lit, Svelte, je ne sais quoi. Et en fait, c'est marrant, on en reparlait hier avec Geoffroy, on va se rappeler quand même que quand tu as choisi un outil, une technologie, c'est potentiellement raison numéro une parce que quelqu'un a passé beaucoup de temps à te convaincre que tu en avais besoin pour plein de bonnes raisons, mais où on parle souvent aussi du quand tu as fait les 90% de taf pour créer ton outil, il te reste 90% du temps pour aller convaincre les gens et expliquer ton outil, le documenter, faire de l'advocacy, etc. Et donc, on avait parlé il y a quelques semaines de Lit, donc le projet qui avait été un peu rebrandé chez Google avec un nouveau logo, un Slack qui était renommé, un événement d'annonce avant le Google I.O. qui était à part. Donc, tout un effort pour essayer de donner une nouvelle jeunesse à ce projet qui avait 2-3 ans et d'essayer de le présenter différemment. Et pour moi, là, on voit encore une étape de franchie dans le fait d'essayer de convaincre les gens que Lit, c'est bien. Et ça passe par un code lab, donc une série de guides avec des exercices qui est directement dédié au développeur React, qui est le framework le plus utilisé sur ce domaine-là. Et voilà, clairement, demain, vous créez votre framework web, vous aurez beau prouver avec des graphes qu'il est mieux, plus performant, je ne sais pas quoi, que React. Si vous voulez que les gens l'utilisent, ça va vous coûter une méta-blinde en DevRel, branding, advocacy, doc et ce genre de choses. Voilà. Et le guide est plutôt bien fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je crois que Clément, tu l'as regardé un peu.
Oui, parce que chez nous, le front est fait en React, soit en JS, soit en PureScript. Et avec ton forçage sur les Web Components, ça faisait un bon moment que j'avais envie de tester un peu l'HTML et tout. Et j'étais toujours resté un peu bloqué sur la gestion des cycles de vie et d'essayer de remettre ça dans les choses que je connaissais. Et là, pour le coup... Le guide, il explique exactement. Enfin, en trois clics, j'ai eu les infos que je voulais, alors que j'avais galéré à les trouver avec. Enfin, avant, je regardais surtout Lit HTML et pas Lit. Et du coup, il y avait rien pour les cycles de vie. J'avais vraiment l'impression d'être un peu démuni pour tout ce qui était gérer état et tout. Et là, c'est écrit très vite à la troisième page. Je vois comment faire du state et des props. Et je suis content, quoi. Et là, je vois comment m'en servir. Alors que avant, j'avais mollement tenté de regarder. À chaque fois, j'avais pas trouvé exactement ce que je voulais. Ça m'avait découragé. Là, j'ai exactement les infos qu'il me fallait. Donc, clairement, moi, ça m'a bien remotivé pour tester. Ouais.
Ouais, je trouve que ton témoignage, enfin, ce que tu viens d'expliquer, tu le disais en off. C'est pour ça que je te fais rebondir. Mais ça témoigne vraiment de ce que je disais avant, quoi, du comment tu convaincs des gens de faire tel ou tel choix technique. Et ça passe par ça. Tu peux pas juste dire j'ai le meilleur outil du marché et donc ça va marcher et tout seul. Et voilà, c'est vraiment cette réflexion que je trouve intéressante autour de
les choix qui est bien.
Après, il y a être Google ou Facebook ou autre, ça aide vachement, ça aide, quand même.
Ouais. Carrément.
T'annonces un nouveau truc quand tu t'appelles Google, ça a plus d'impact que Jean-Michel qui a 100 followers sur Twitter.
Ah, mais c'est tellement vrai.
Mais après, c'est vrai que faire un guide comme ça, bah, ça a un impact énorme, en fait, aussi, c'est sûr.
Mais il faut passer du temps. Communauté comme DevFront, où tu sens bien qu'ils n'ont pas une grande loyauté. Enfin, à part sur des gros outils comme du Angular ou du React, ou il y a eu tellement de boulot et d'argent mis pour que les gens entendent tout le temps parler, que même les recruteurs se disent c'est ça qu'il faut, qu'on demande, etc. Mais sinon, si t'as pas cette capacité-là, t'es là, hey, j'ai sorti un nouvel outil. Puis en fait, la semaine suivante, quelqu'un peut faire le même.
Ouais. Oui, par contre, il y a une énorme loyauté / religion autour des différents gros frameworks. Et quand t'es fan de X, tu bouffes X, tu dors X, et quand je dis X, tout le monde sait que je pense à React, hein, on va être clair.
T'as un côté brand, tu sais, t'es pas dev front JS, tu es dev React. Exactement. Est-ce qu'il y a des gens qui se disent dev lit maintenant?
Non, et pour ma part, je souhaite qu'on n'en vienne pas là. Et c'est un sujet que j'avais évoqué quand on a parlé du rebranding de Lit, etc. Je souhaite qu'on n'arrive pas à faire Lit machin des Lit bidule comme on a avec Vue React Angular, justement parce que tout l'intérêt est de produire un web component dont Lit est un détail d'implémentation. Et le fait de brander DevRel Advocacy va pousser un peu vers quelque chose qui n'est pas ça. Donc, moi, je vais rester vigilant. Mais oui, ce que tu t'expliques par rapport à Jean-Michel qui a fait son framework pas connu ou Jeanne-Michel de Zelle, je ne sais pas quel est le cliché féminin de Jean-Michel, mais... Nous, on avait regardé des concurrents, des helpers pour faire des web components. Il y en a notamment un qui est basé sur des objets qui s'appelle... je vais retrouver le nom. Et qui est fait par une seule personne. Et je l'avais sérieusement considéré, mais il y avait 2-3 parties qui ne me plaisaient pas. Et clairement, quelle garantie j'ai que ce soit maintenu dans quelques années, je ne sais pas. Tu vas me dire quelle garantie j'ai que Google continue à maintenir
une technofront de Google. Il y en a pour des années.
C'est un autre débat.
Regarde Gwit.
Bref. Voilà.
Ils l'utilisent encore. Hein.
Oui.
Ils n'ont juste pas réussi à l'extraire, mais...
Ouais.
En fait, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer cet effet communauté, c'est-à-dire que tu dis que tu es dev Angular, c'est ton identité, c'est les opportunités de job que tu vas avoir, c'est ta communauté, c'est comme les querelles de clochers entre langages.
Il y a du code aussi.
Tu n'es pas juste développeur front, tu as une identité qui est liée.
Il y a quand même du code et des libs aussi qui jouent, quoi. C'est pas juste de l'identité en termes d'efficacité pour développer une fois que tu es dans l'écosystème. T'as quand même beaucoup, beaucoup de choses qui sont disponibles et qui te lock-in aussi, quoi.
Ouais. Oui, oui. Tu veux dire que t'es lock-in par ce sentiment d'appartenance, ses habitudes, etc., mais par les outils et comment ils sont faits, s'ils t'aident ou pas à t'éjecter.
Et toutes les bibliothèques
qu'il y a. Ça s'auto-entretient, c'est-à-dire que tu vas utiliser les...
Ouais.
En fait, c'est que c'est devenu aussi impactant qu'un framework dans notre langage. Par exemple, un développeur Ruby qui fait du Ruby on Rails, il va vachement se présenter comme développeur Ruby on Rails et pas juste Ruby. Mm-hmm. Pareil, PHP, si tu fais du Symfony, c'est pas pareil que si tu fais du
Laravel.
Du Cake, voilà. Et là, en fait, React Angular et Vue, c'est devenu ça aussi. On voit dans les annonces de recrutement, on précise ça, c'est vraiment impactant. C'est pas juste du JS, c'est du React, c'est du Angular. Ça a vraiment un impact, quoi.
Ce que je trouve fascinant, c'est à quel point, et je crois que je l'évoquais dans un truc que j'avais écrit là-dessus, c'est est-ce qu'on se présente comme développeur Angular parce qu'il y a des offres d'emploi Angular ou est-ce qu'il y a des offres d'emploi Angular parce qu'on... Et en fait, je pense que c'est l'œuf ou la poule, il n'y a pas vraiment de... Ça s'auto-alimente. Et de la même manière que tu crées un meet-up Angular, je vais changer, un meet-up Vue pour parler de Vue parce que Vue, ça te plaît, c'est intéressant. Mais à quel moment ton meet-up Vue, tu vas continuer à l'entretenir parce que tu as créé une communauté et tu vas essayer à tout prix de trouver des intervenants parce qu'il faut un... Et en fait, pour moi, ça devient un problème quand le système s'auto-alimente alors qu'il a perdu de l'intérêt. Et c'est même là que je trouve ça hyper fascinant en termes d'analyser comment on fait des choix techniques. Quoi.
Oui, parce qu'on se finit par se bloquer quelque part sans regarder finalement s'il n'y a pas autre chose qui serait plus adaptée aujourd'hui.
C'est ça.
On s'enferme un peu dans sa bulle. Quoi.
Si je peux me permettre une analogie, c'est comme ça que tu en arrives à faire 4 saisons de Dexter qui sont inintéressantes, mais juste parce que... il faut faire une nouvelle saison alors que t'as plus d'idées. Attention, ceci était hautement trollesque et personnel comme opinion. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. À quel moment t'entretiens le truc juste parce que t'es bien dedans, quoi. Bref. Autre chose ? Non ? Ouais. On va rester dans le monde de Google, encore une fois, pour parler d'une annonce qui a fait pas mal de bruit dans le monde front-end, toujours, qui est un blog post de Google sur le fait qu'ils vont passer le rendering de Google Docs d'un mode essentiellement HTML et DOM vers du Canvas. Alors, c'était déjà le cas de Google Spreadsheet. Si vous inspectez la page web de Google Spreadsheet, les barres d'outils, c'est du DOM. La plupart des trucs qu'il y a au-dessus, c'est du DOM. Mais dès que vous regardez le spreadsheet, quoi, le tableau de vos données, tout est rendu en Canvas.
Ça fait combien de temps que c'est le cas ? C'était le cas dès le début ?
J'ai pas vérifié. Non, c'était pas le cas dès le début. Mais ça fait bien 3-4 ans. Ouais, ça fait depuis avant mon arrivée chez Clever. Donc, ouais, je dirais que ça fait au moins 3-4 ans, on pourra vérifier. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand vous sélectionnez une cellule, la bordure qu'il y a autour de votre cellule, celle-là, c'était une div qui était positionnée de manière fixe sur le canvas. Donc, il y a une collaboration entre les deux qui m'a toujours fasciné. Après. Pour un spreadsheet, il y a un côté, tu peux pas sélectionner du texte dans un spreadsheet, tu peux sélectionner des cellules, et quand tu sélectionnes du texte et que tu édites du texte, à vérifier, mais dans mes souvenirs de ce que j'avais regardé, là ça passait en mode web, donc si tu double-cliquais sur une cellule, ça mettait une sorte de texte area ou de content éditable dans ton browser. Là, la grosse annonce, c'est que ils vont le faire pour Google Docs. Et j'avoue qu'au premier abord, c'est pas un choix que j'ai compris. Je me suis dit, attends, pour render un document, vous avez besoin de Canvas, n'importe quoi. HTML, c'est fait pour ça. Par contre, quand tu rentres dans le monde de un usage plus normal d'un traitement texte qui n'est pas le mien, moi je mets juste du texte comme si je tapais du markdown, mais quand tu commences à mettre des listes à puces, des images, des tableaux, etc. Tu commences à avoir des besoins assez complexes et donc eux ils sont allés jusque là dans Google Docs. Du coup ça a fait beaucoup parler parce que bah, y a des inquiétudes autour de l'accessibilité. Quand tu commences à faire ça, tu dois recoder qu'est-ce qui se passe quand la personne essaie de sélectionner du texte, comment tu t'interfaces avec un lecteur d'écran. Enfin, il y a plein de problématiques à réinventer. Donc Geoffroy, tu as mis un lien aussi qui revient sur comment ils ont fait et qui explique un peu qu'au niveau accessibilité, ils y ont pensé, ils ont géré les trucs. Tu sais en dire plus ou pas ?
Oui, en fait, ils en ont dit un petit peu dans des interviews que ben, globalement, pour la partie accessibilité, ils ont un DOM séparé, caché, qui sert juste à ça. Parce que les outils d'accessibilité, ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils vont... Ils vont regarder le contenu de la page et lire le texte, essayer d'en récupérer la structure et la donner par exemple à l'audio. Et donc là, avec du Canva, comme on écrit directement sur un Canva et que tout ce qui est passé au côté front vraiment aux outils UI, c'est une zone avec des pixels, ben, c'est pas visible pour les outils d'accessibilité. Donc c'est pour ça, si on leur file un accès DOM où ils peuvent aller regarder la donnée directement, ça marche quand même, quoi. Mais effectivement, ce que tu dis, c'est aller se retaper des composants, rien qu'un composant, un éditeur de texte, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, parce que entre comment est-ce que tu fais tes retours à la ligne, comment est-ce que tu sélectionnes le texte, si tu passes la ligne au-dessus, la ligne en dessous, etc. Il y a un million de détails qui vont dans un composant texte. C'est quelque chose qui paraît simple comme ça, mais se le refaire, voir les polices, voir la taille gauche-droite. Oui. On ne t'entend pas, Hubert.
même juste à quel moment tu wraps le texte, le prendre en compte la font size qui a été précisée par l'utilisateur, si l'utilisateur a forcé une police accessible pour les dyslexiques. Enfin, c'est un navigateur, ça a quand même un sacré paquet de trucs qu'il sait faire, et quand tu rentres dans ce domaine-là, tu dois le refaire à sa place, c'est pas anodin.
Après, il y a un truc qu'on va quand même dire, c'est que c'est un taf qui est nécessaire. Il fallait qu'à un moment, quelqu'un fournisse de bons outils pour faire des composants comme ça dans du Canva. Il y a des besoins là-dessus. On a besoin de pouvoir faire des dessins de choses plus intéressantes dans du Canva, de pas forcément avoir les composants web, mais des trucs plus custom. Et c'était ça, où tu utilises tel framework de UI que tu as dans ton OS, du KDE, du GTK, des choses comme ça, enfin Qt, KDE. Enfin, il n'y a pas 10 millions d'options.
Ouais.
Et le Canva, c'était un endroit où ça fait des années que c'est là, et qu'on se dit, mais pourquoi on ne pourrait pas faire des petits composants, des trucs sympas là-dedans. Et il y a eu du taf, il y a eu des exemples comme ça, mais un bon framework UI dans Canva, il y a des besoins, ouais.
Moi, j'ai juste peur qu'il y ait une tentation à ensuite coder des frameworks web basés 100% Canvas et sans DOM, et que ça pousse des gens qui n'ont pas du tout ce genre de besoin, qui font de l'app de gestion avec trois formulaires et machin, à faire ça juste parce que c'est cool et parce que c'est nouveau, et à ignorer une énième fois les problèmes d'accessibilité, quoi.
100% canvas, enfin, sans DOM, full wasm, le web comme ça aurait dû être dès le début.
Ah là là. On va enchaîner avec un lien de notre invité Clément, qui va nous parler de PG et de Haskell.
C'est spécial parce que c'est Clever. Quand j'étais chez Clever il y a longtemps, j'avais fait une bibliothèque en Scala, du coup, pour simplifier un peu le parlage avec les bases de données, et qui était volontairement pas un ORM, pour des raisons que j'ai pas le temps de détailler ici, mais que je détaillerai avec force violence si je pouvais. un truc pas très ambitieux, mais qui a fait le taf, quoi. Et en gros, quand je suis allé dans ma boîte actuelle, je l'ai recodé en Haskell. Pas en open source, du coup, en interne. Et en fait, j'ai un collègue qui a quitté mon équipe et qui s'était dit que c'était quand même pratique, et qu'il a recodé de son côté en Haskell et en open source. Et du coup, cette lib existe à trois endroits différents, dans deux langages différents, alors qu'elle est basée sur aucune abstraction très intéressante. Mais si vous avez envie de faire d'écrire le SQL vous-même, mais que retaper les noms des champs à chaque fois, c'est galère, parce que c'est première source de problème, mais c'est une petite lib qui fait extrêmement bien le taf et qui vous aidera. Voilà. Et c'est un niveau d'abstraction que j'ai jamais vu ailleurs et qui est pourtant bien pratique. C'est toujours rigolo de voir comment ça marche. Voilà.
Eh bien, Clément, merci pour ce lien. Allez, on se fait un dernier lien, il nous reste 5 minutes. On vous parle d'un petit outil de l'épisode avant de terminer, qui s'appelle ZX, qui est sorti par Google. Décidément, c'était un épisode très Google. ZX, en gros, ça vous permet, au lieu d'utiliser Bash, d'écrire des scripts avec JavaScript. C'est en gros un wrapper autour de child process pour aller pouvoir lancer plein de commandes système, ls des fichiers, accès à git, ce que vous voulez, et ça utilise des tags de template. Regardez la syntaxe, c'est assez élégant, et ils fournissent plusieurs choses en global directement, et donc vous faites mon script.js, vous mettez un petit hash shebang, je sais plus quoi, tout en haut pour qu'il s'exécute avec ZX, vous lui donnez les droits d'exécution, et après vous avez juste à lancer le script comme vous le feriez avec un script shell, avec plein de helpers assez cool pour faire des scripts. Je l'ai testé hier soir, c'est aussi simple que pratique, vraiment. Un outil plutôt cool à suivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je tiens à remercier chaudement nos merveilleux participants et notre invité Clément.
Merci.
Pour terminer l'épisode, tu nous as choisi une musique. Est-ce que tu peux nous dire ce
que
c'est?
Quand je parle de code, je parle de Haskell, et quand je parle de musique, je parle de Pink Floyd, bien évidemment. C'est un album de Pink Floyd qui n'est pas très connu. C'est un album de Pink Floyd qui n'est pas très très connu et qui a le mérite d'être très sympa, qui a été fait juste avant Dark Side of the Moon et qui reprend des thèmes qu'on va retrouver dans Dark Side of the Moon et qui n'est pas si connu. Donc même si vous connaissez Pink Floyd, c'est un album sympa à écouter. Voilà.
On espère que cette magnifique musique ne nous fera pas striker par nos amis de YouTube.
Ça marche.
En espérant qu'on a assez parlé de Google aujourd'hui pour que ça évite le problème. Merci pour ce choix musical, Clément.
Merci
Geoffroy. Merci Alexandre. Et puis, bisous à tous les je perds
les auditeurs.
Les auditeurs et les spectateurs. Et on vous dit à la semaine prochaine.
Au revoir. Au revoir tout le monde. Just too steep. Is your conscience